Chapitre 7.
On a le droit de venir avec un chien au standard ?
J'ai levé les yeux du plan de travail taché de café du petit coin cuisine et j'ai trouvé l'agent McKerrett appuyé dans l'embrasure de la porte qui nous observait, moi et Tulip, patiemment assise à mes pieds. 7h42. Celle qui devait prendre ma relève, Sarah Duffy, avait eu l'obligeance de se présenter à l'heure pour la permanence du matin. Elle s'était connectée, avait fait l'appel, puis nous avions consacré 30 minutes à débriefer les événements de la nuit pour que sa connaissance des épisodes précédents la guide dans sa journée. C'était particulièrement utile en cas de plainte pour violence conjugale quand, mettons, on avait déjà reçu 2 appels en provenance d'un même domicile pendant une permanence et qu'un 3e arrivait pendant la suivante. À ce stade, le second opérateur savait que le conflit durait, qu'il y avait peut-être escalade et qu'il était sans doute temps d'intervenir de manière plus musclée, que le requérant soit d'accord ou non. Je venais de quitter mon poste avec la sensation d'avoir mérité chaque penny de mes $14.50 de l'heure. J'étais à la fois épuisée et dopée à l'adrénaline, cocktail dangereux chez n'importe qui, mais particulièrement chez moi. Encore une journée de passé. Plus que 3 avant le 21. Randy et Jackie avaient toutes les deux été assassinées dans la soirée. Histoire de dire, j'avais fixé la fin du compte à rebours au 21 janvier, 20h. Ce qui me laissait 84 heures et des poussières. Ou bien, en imaginant que je dorme 6 heures chaque matin, seulement 60 heures d'éveil. L'agent McKerrett s'est écarté du montant de la porte pour entrer dans le petit local. Il s'est approché de Tulip, lui a présenté sa main. Il a un nom ? Elle s'appelle Tulip. Tu l'amènes souvent ? Il fait trop froid pour la laisser dehors, ai-je répondu, comme si c'était une explication suffisante. Il a hoché la tête, donc c'était peut-être le cas. J'ai fini de nettoyer le plan de travail avec une lingette de détergent, et armée d'un tampon à récurer, je me suis attaquée au vieil évier en inox. 9 mois plus tôt, j'avais entrepris de renouveler le matériel de ménage de la salle de pause. Croyez-moi, ce n'était pas du luxe. L'agent McKerrett grattait les oreilles de Tulip, mais c'était moi qui l'observais. Je ne lui ai pas rendu son regard. Je récurais l'évier, partout des traces de café et de calcaire, ça me rendait dingue. « Tu parles d'une intervention cette nuit ?» a dit l'agent McKerrett. Je me suis figée. J'ai remarqué une trace de rouille qui ne partirait jamais, frottée de plus belle. « Désolée d'avoir été lente à la comprenette, » ai-je brusquement répondu. La requérante se cachait de son mari et ne pouvait pas franchement parler.
Alors comment tu as obtenu les renseignements ?
Avec des bips.
Pardon ?
J'ai fini l'évier, jeté un coup d'œil à l'agent et ouvert le robinet pour rincer l'éponge. Les yeux bleus, les cheveux bruns coupés courts, l'agent McKerrett devait avoir dans les 35 ans. Plutôt massif, mais il le portait bien. Ça lui donnait une présence devant laquelle les contrevenants abandonnaient l'idée de fuir et préféraient se rendre. Je n'aimais pas qu'il se tienne si près de moi. Je n'aimais pas qu'il m'examine avec ses yeux de flic exercés à déceler les secrets et à lire au-delà des apparences. Il n'était jamais venu me voir après le service, comme la plupart de ses collègues. Certes, comme l'avait dit Didi Warren, je couvrais leurs arrières et ils pensaient couvrir les miens. Mais d'un autre côté, il est connu que les opérateurs sont souvent victimes d'épuisement au travail. Alors la plupart de mes agents attendaient de voir si je passais le cap de la première année avant de s'investir dans une relation personnelle. J'étais comme ce petit rôle dans tous les vieux films de guerre, le nouveau venu dont personne ne s'est donné le mal d'apprendre le nom. Sauf que l'agent McKerrett était en train de discuter avec moi, de m'accorder de l'attention. Selon la logique des films de guerre, il venait de me condamner à sauter sur une mine dans la scène suivante. Cette idée m'a fait sourire, puis donner envie de rire, puis de pleurer. Épuisement et adrénaline. Un cocktail dangereux chez n'importe qui, mais surtout chez une femme à qui il ne restait plus que 84 heures à vivre. « Comment ça, des bips ?» a insisté l'agent McKerrett. J'ai rangé les lingettes, pris ma sacoche. Je posais des questions. La requérante répondait. Un bip pour oui, 2 bips pour non. Ça a marché. J'ai passé la large bandoulière en travers de ma poitrine, installé mon sac de cuir noir sur ma hanche avec mon torus chargé à l'intérieur. J'ai pris la laisse de Tulip. Et l'agent McKerrett a posé une main sur mon bras. Je me suis figée. le souffle comme coupé. Sans savoir quoi ressentir, comment réagir. Un an que je m'entraînais à attaquer, riposter, me défendre. J'aurais dû me mettre en position de boxeur, les mains à hauteur du visage. Comme si tu prenais une photo, me criait toujours mon entraîneur. J'aurais dû me préparer à lâcher un premier direct pour enchaîner rapidement, deuxième coup de poing, crochet du gauche, uppercut. Un an que personne ne m'avait touché. Normalement, poliment, gentiment. Et ce vide absolu provoqué par mon isolement menaçait soudain de m'engloutir. Isolement, épuisement, adrénaline. J'avais envie de rire, envie de pleurer. Envie de me jeter dans les bras de Mac Kéret pour me rappeler ce que ça faisait d'être enlacé. « Tu as appris ça en formation ?» m'a-t-il demandé d'une voix calme. « Non. »« Et le pistolet ?»« Comment tu as su pour le pistolet ?» Sa main était toujours posée sur mon bras. Ses yeux bleus fixaient mon visage avec intensité. La tête droite, je conservais une expression neutre. « Une intuition ?» Son bras est finalement retombé. À côté de moi, Tulip a émis une petite plainte, comme si elle devinait mon malaise. « Beau boulot », a brusquement dit l'agent. « Je pense... Merci, Charlie. Sincèrement. Merci. « Contente que tu ailles bien », ai-je simplement répondu. « Et désolée d'avoir mis aussi longtemps à cerner la situation. Je ferai mieux la prochaine fois. » Deux services, et ce serait fini. Deux services. L'agent McKerrett a reporté son attention sur Tulip, maintenant collée à ma jambe. J'ai remarqué ses mains le long de son corps. Pas d'alliance, mais ça ne voulait rien dire. Peu d'agents en portaient. Ils préféraient ne pas donner d'informations personnelles sur leur lieu de travail. « Je te ramène chez toi », a-t-il dit d'un seul coup. « Ça va ?» Il m'a interrompu. « Tu ne peux pas la prendre avec toi dans le métro », m'a-t-il dit en désignant Tulip. « Nous sommes peut-être tolérants », a-t-il fait remarquer d'une voix ironique pour me montrer qu'il n'était pas dupe, « mais pas les transports en commun de Boston. » Là, il me tenait. Le taxi m'avait coûté 30 $, presque le tiers de mon salaire de la nuit. Encore une course pour rentrer, et une fois les impôts payés, j'aurais travaillé pour rien. J'hésitais encore, les vieux instincts ont la vie dure. Didi Warren m'avait conseillé de me confier à mes collègues. Ils n'avaient aucun lien avec Randy ou Jackie. Ils ne pouvaient pas être mes ennemis, alors j'aurais dû m'en faire des alliés. Sauf que, à en croire la logique des films de guerre, le fait que l'agent McKerrett vienne de m'appeler par mon prénom signifiait que je serais la prochaine à mourir. Mais à en croire l'histoire de ma vie, si j'appelais l'agent McKerrett par son prénom, alors ce serait lui la prochaine victime. Ce n'était pas pour rien que je n'étais pas très sociable. Non seulement je voulais limiter le nombre de gens susceptibles de me nuire, mais aussi le nombre de gens à qui je risquais de nuire. « Allez, Charlie !» m'a dit l'agent McKerrett bourru. « Donne-moi une chance. Tu m'as probablement sauvé la vie cette nuit. Le moins que je puisse faire, c'est épargner un trajet en taxi. » Il s'est tourné vers la porte, et Tulip et moi l'avons suivi. Tulip caracolant fièrement devant cette marque d'attention inattendue. Je me suis demandé ce que Jackie faisait à cette même époque, un an plus tôt. Je me suis demandé à quoi elle pensait, qui elle venait peut-être de rencontrer. Et puis encore, si elle avait su. Si celle qui était jadis l'organisatrice en chef de notre trio avait vu venir sa propre mort, aurait-elle agi différemment? Aurait-elle accepté ou refusé? C'est une des grandes questions de l'existence, vous ne croyez pas? Est-ce qu'on regrette les choses qu'on a faites ou celles qu'on n'a pas faites? 84 heures et des poussières, je suivais l'agent McKerrett vers sa voiture. Je lui ai dit que je vivais à Cambridge, du côté de Harvard Square. Ce n'était pas trop loin, me disais-je. Tulip et moi pourrions finir à pied. L'agent McKerrett, appris-je, habitait Grosvenor, ce qui signifiait, vu les encombrements de l'heure de pointe sur la I-93 en direction du nord, qu'il allait faire un détour d'une bonne heure. J'ai encore protesté, il m'a emmené jusqu'à sa voiture de patrouille, avec laquelle tous les agents rentraient chez eux. Je suis monté à l'avant sur un siège en cuir noir véritable, bien confortable. Tulip a hérité de la banquette arrière toute dure et recouverte de vinyle. Idéal pour les nettoyages au jet, moins pour les chiens à poils doux. Tulip a glissé deux fois avant de renoncer et de se coucher par terre.
« Tu viens de quelle région ?» m'a demandé l'agent McKerrett alors que nous empruntions la bretelle d'accès vers la 93.
« Du New Hampshire. »«
Concorde ?»«
Plus au nord, dans les montagnes. »
« Tu fais du ski ?»«
Un peu. »
« Du ski de fond. »
« Je faisais du ski alpin quand j'étais étudiant. Rupture du ligament croisé antérieur. Le ski de fond serait peut-être plus indiqué pour moi.
De la famille ?»
Je me suis tortillée sur mon siège. J'ai regardé par la vitre.
« Pas mariée.
Et toi ?»«
Jamais essayé. »
« Quelqu'un dans ta vie ?»«
Tulip et moi, c'est une grande histoire. »
Il a ri.
« Ça fait longtemps que vous êtes ensemble toutes les deux. »
« On va bientôt fêter nos 6 mois. J'espère qu'elle m'offrira des fleurs. Tu as des animaux ?»«
Ni petit ami, ni enfant, ni animal.
Deux parents, une grande sœur du genre emmerdeuse et 3 adorables neveux et nièces. Ça suffit à mon bonheur. »
À son tour.
« Des passions dans la vie ?»«
J'aime faire le ménage. »
Il n'a rien dit, m'a regardé, la main gauche sur le volant.
« Sérieusement ?»
J'ai haussé les épaules. « Je travaille toute la nuit et après je dors toute la journée. Ça ne favorise pas la vie sociale. »
« Objection retenue. »
Il a regardé mes poings serrés sur mes genoux et a judicieusement remarqué.
« Mais ce n'est pas en faisant le ménage que tu as attrapé des doigts pareils. »
J'ai baissé les yeux avec gêne, regrettant de ne pas avoir enfilé mes moufles ou au moins caché mes mains sous mes cuisses. Mes doigts étaient dans un sale état. Des deux côtés, les creux entre mes auriculaires et mes annulaires étaient tuméfiés et violets. Les autres articulations étaient écorchées à plusieurs endroits et présentaient tout un assortiment de blessures anciennes ou récentes. Des mains de championne. Ni jolies, ni féminines, et pourtant j'étais très fière de leur nouvelle apparence.
« Boxe », ai-je fini par avouer.
L'agent McKerrett apparut étonné.
« Donc tu as bien une passion. Ça doit être sérieux pour que tu t'amoches comme ça avec des gants. »
Je ne l'ai pas détrompé. Naturellement, je me battais à main nue. À quoi m'auraient servi des gants, le 21 ?
« Tu travailles essentiellement en roulement de nuit, j'ai l'impression. »
ai-je fait remarquer pour reporter la conversation sur lui.
« Essentiellement, oui.
Pourquoi ?
Maintenant, tu dois avoir assez d'ancienneté pour demander un planning plus sympa. »
Ça lui était égal.
J'ai commencé la nuit parce que c'est ce qu'on refile au nouveau, et puis, je ne sais pas, je crois que j'ai toujours été un oiseau de nuit. Ces horaires ne me dérangent pas, alors qu'il y a plein de collègues qui ont une famille, des enfants, des chiens ou je ne sais quoi, et pour qui ce serait la galère. Ça m'a paru plus logique de garder cette tranche horaire.
Esprit d'équipe ?
C'est le cas de la plupart des policiers, a-t-il fait observer. Pas des opérateurs ?
Plutôt des solitaires, ai-je affirmé.
Ce n'était pas tout à fait exact, mais je me sentais d'humeur à répondre ce qui me venait. On n'est jamais mieux qu'enfermé dans une pièce sombre devant une batterie d'écran et une dizaine de tasses de café. Tu sais ce qu'on obtient en croisant un aiguilleur du ciel et un funambule ? Un opérateur du 911.
Il a ri, d'un rire chaud et décontracté qui m'a davantage fait vibrer qu'il n'aurait dû.
Comment tu es arrivé dans le métier d'ailleurs ? M'a-t-il demandé.
J'avais vu ce que ça donnait dans le Colorado. J'avais besoin d'un boulot, je n'avais pas de diplôme universitaire. Les centres de gestion des appels prennent à peu près n'importe qui. Ça correspondait à mes qualifications.
Pendant mes études, j'avais souffert de troubles de la mémoire, mais aussi d'une faible capacité de concentration. Ça m'avait valu de sales quarts d'heure sur les bancs de l'école. Combien de fois Jackie m'avait-elle regardé en secouant la tête parce que j'avais raté un énième contrôle ? En revanche, il s'est avéré que les situations de crise faisaient ressortir le meilleur de moi-même. Je ne suis pas la coéquipière rêvée pour un quiz de culture générale, mais en cas de tentative d'intrusion dans votre domicile, je suis la femme de la situation. Je comptais sur le fait que la poussée d'adrénaline serait mon allié le 21.
« Il n'y a pas beaucoup d'opérateurs qui résistent à la période de formation », a fait observer l'agent McKerrett.
« Eh bien, moi, ça m'a plu. Chaque service est différent. » Il faut réagir dans l'urgence.
J'ai sans doute un méchant déficit de l'attention, alors c'est parfait. Et toi ?
Un père flic. C'est cliché, mais qu'est-ce que tu veux ? Et ça me plaît. Chaque service est différent. Il faut réagir dans l'urgence.
Il a quitté la 93 vers Storrow Drive. On y était presque. À travers la cloison de sécurité, j'apercevais tout juste la tête de Tulip qui s'était assise. « Tu peux nous déposer à Harvard Square ?»«
Tu n'habites pas à Harvard Square. »
Je l'ai regardée. « Comment tu sais où j'habite ?»«
Je suis policier, »
a-t-il répondu sans s'émouvoir. « Je me suis renseigné. » Les mains figées sur les genoux, j'ai pensé à mon taurus chargé, rangé bien au chaud dans mon sac parce qu'on ne m'aurait jamais laissé le porter à la ceinture sur mon lieu de travail. « Agent McKerrett,
Tom. »«
Agent McKerrett,
Tom, »
s'est-il obstiné. « Tu peux nous déposer à Harvard Square. Ça fera du bien à Tulip de marcher. »«
Seulement si tu réponds à une question. »
Je l'ai observé sans mot dire.
« Est-ce que c'est seulement de moi que tu te méfies, ou de tous les hommes ?»« Parce que, autant que je sache, je ne t'ai jamais manqué de respect, mais si c'est le cas, je préférerais le savoir pour mieux faire la prochaine fois. »
Il était presque à Harvard Square, et il n'allait pas ralentir, je le sentais. Il connaissait mon adresse, et il s'était mis en tête qu'il se devait de nous raccompagner, Tulip et moi. Peut-être que c'était pervers. Peut-être qu'il voulait nous montrer combien il en savait, à quel point il pouvait entrer dans mon intimité. Ou bien, peut-être que nous étions un homme et une femme qui avions partagé des moments plutôt intenses cette nuit-là, et que j'étais épuisée et surexcitée, que lui était épuisé et surexcité, qu'il avait ce rire grave, cette large poitrine, et qu'il aurait été facile de le toucher. Je me suis souvenue de ça. La sensation chaude et ferme d'une peau d'homme sous ma main, la barbe râpeuse, le goût avide d'un homme qui me désirait autant que je le désirais. Des idées un peu imprudentes, un peu folles me sont passées par la tête. Peut-être que ce que craignent la plupart d'entre nous, ce n'est pas de mourir, mais de mourir seul. Sans jamais avoir vraiment noué de lien, de relation. Après avoir vécu sur cette terre, mais sans y laisser la moindre trace. Cette idée m'a anéantie. Elle a emporté toute ma lassitude et ma nervosité dans un petit tourbillon obscur, jusqu'au moment où j'ai eu envie de coucher avec ce quasi-inconnu. J'avais juste envie, l'espace d'un bref instant, de me sentir importante pour quelqu'un. L'agent McKerrett arrivait à Harvard Square. Il a ralenti pour tenir compte des encombrements du matin, entre les feux de circulation, les voitures et les étudiants. Puis il a suivi la route qui contournait des bâtiments en briques et passait sous l'autopont, tourné à gauche à la hauteur d'un des nombreux espaces verts et filé droit vers chez moi. À l'arrière, sentant l'écurie, Tulip a gémi. 4 rues. 3, 2, 1. L'agent McKerrett a freiné, pris à droite, et parcouru une partie de la rue avant de s'arrêter pile devant la maison grise de ma logeuse. J'avais déjà la main sur la poignée de la portière. Coup de chance, les passagers qui voyagent à l'avant d'une voiture de patrouille peuvent monter et descendre à leur guise. « Merci de m'avoir accompagné. »«
On dîne ensemble ?»«
Ce soir. Avant le service, je pourrais passer te prendre. Te préparer à dîner chez moi si tu as envie de venir avec Tulip, ou t'emmener dîner dehors si tu préfères. »«
Merci de m'avoir accompagné. »
Soupir. « Tu ne me rends pas la partie facile, Charlie. » Je ne l'ai pas contredit. Je suis simplement descendue de voiture et j'ai libéré Tulip. Elle est sortie d'un bond avec gratitude et s'est mise à galoper en petit cercle sur le trottoir enneigé. L'agent McKerrett n'a rien ajouté. Il m'a juste observé par la vitre pendant que je lui claquais la portière au nez. Une fraction de seconde plus tard, il embrayait et s'éloignait. Tulip et moi, côte à côte, l'avons regardé s'en aller. J'ai attendu que la voiture de patrouille disparaisse. Alors enfin j'ai relâché le souffle que je retenais sans m'en rendre compte, et je me suis retournée vers la maison où je louais une chambre. À cet instant, j'ai surpris un mouvement du coin de l'œil. Levant vivement les yeux, j'ai juste eu le temps d'apercevoir une silhouette à la fenêtre du premier étage de la maison voisine. À peine l'avais-je remarqué qu'il ou elle reculait. Les stores retombaient. La fenêtre redevenue muette, Tulip et moi nous sommes retrouvés seuls dans la rue, et moi j'avais la chair de poule.